Vortex et rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur Radio Dragon 96.8 et 104.4 et Campus Grenoble 90.8.
Bienvenue pour la rentrée de Vortex et Rotative. L'émission qu'on vous propose aujourd'hui aura un format un peu inhabituel puisque nous allons vous parler du roman Subtil Béton, écrit par le collectif Les Agglomérés, dont Ernest fait partie.
Il a été publié au grand format en janvier 2022 à l'Atalante et vient tout juste de paraître au format poche. Alors Les Agglomérés, c'est le nom qu'on a donné au collectif d'auteuristes du roman Subtil Béton. Et c'est un groupe qui a été composé de 3 à 5 personnes et qui est né en 2007 autour d'un lieu autogéré, avec la volonté d'y faire exister une présence féministe. Et comme support aux discussions, on a utilisé des ateliers d'écriture qui étaient parfois ouverts et auxquels en tout il y a plus de 30 personnes qui ont participé. Et au bout d'un moment, ces ateliers, ils ont amené à l'idée d'un roman qui a été élaboré, relu, retravaillé au fil des années. Et le choix du nom Les Agglomérés, c'est aussi pour évoquer les personnes qui ont contribué à travers les ateliers d'écriture, mais aussi à travers les relectures, les retouches et toutes les personnes qui ont permis que ça existe d'un point de vue matériel, avec des espaces, du soutien ou de la vie en collectif.
L'histoire que raconte ce roman se déroule dans les années 2040. L'Union européenne n'existe plus. À la France a succédé la Franco, un État à peine plus autoritaire et nationaliste qui mène une politique raciste et néocoloniale. Le pays s'est replié sur lui-même et à l'intérieur, le dernier mouvement social d'ampleur a été brutalement écrasé quelques années avant et toute tentative d'organiser des résistances est férocement réprimée au nom de la dispersion, la politique franconienne d'éradication des révolutionnaires. Le roman suit alors plusieurs personnages avec ses questionnements. Comment se reconstituer après une telle défaite? Comment retrouver des forces, fabriquer des solidarités dans un monde si dur? Et comment survivre, en vivant seul ou en collectif, en clandestinité ou non, avec tous les enjeux de choix et de non-choix que ça peut représenter, et des moyens de se redonner des perspectives stratégiques, mais aussi des nécessités de la survie. Alors l'univers de ce roman se lit un peu comme une sorte de version ultra pessimiste de notre réalité actuelle. Il y a plein de trucs qui rappellent quand même vraiment des choses d'aujourd'hui. C'est un peu comme si vous racontiez le point de vue des perdants, les côtés difficiles de la lutte. À un niveau assez intime, ça parle des angoisses, de la peur, du désespoir. Je me suis demandé qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans?
Déjà, à la base, on a raconté des trucs qui nous traversaient personnellement. Et écrire ça, parler de ce qui nous fait peur, par exemple, dans ce monde, c'est aussi un moyen d'une sorte d'autodéfense, quoi, de réfléchir à des outils, d'imaginer comment on fait face ou de se rappeler comment on fait face. Même si on vit dans des contextes hyper durs à des moments, y a aussi plein de choses belles qui se passent. Il y a des moments de joie, des amitiés fortes, des solidarités, de l'espoir, des envies de lutter. Et en fait, c'est pas que des outils qu'on a envie qu'ils servent au cas où on serait dans une société beaucoup plus autoritaire, mais c'est aussi des trucs dont on a besoin maintenant, dans nos luttes maintenant, quoi. Mmh. Et raconter ce qui nous traverse maintenant. Du coup, faire exister des émotions qui vont être peu racontées dans des contextes de lutte. J'ai l'impression, moi, ça m'a beaucoup tenu à cœur, par exemple, qu'on décrive des crises d'angoisse.
Je me réveille au milieu de la nuit, en sueur. Brutalement. J'écoute mon cœur, Rumeur de la ville sous climatiseur. Une sirène au loin. Le bloc C du domopart voisin encore déployé sur le programme télé. Éveillé, mais incapable de m'extirper de cette ambiance de cauchemar. J'étouffe. Trachée trop resserrée, comme si j'avais moi-même subi une injection. Le regard qui ne peut plus se fixer. Crise d'angoisse. Je suis assise sur mon lit, le froid à l'intérieur. Je n'ose pas, ne peux pas me déplier. Mon corps tressaille en rafale. J'entrevois le mur en face de mon lit. L'angle du petit meuble se devine à peine dans l'obscurité. Le tas de vêtements par terre semble s'enfoncer dans le sol. Ce chez moi a perdu toute vraisemblance.
Et je crois aussi une des autres volontés, c'était de faire exister des choses très quotidiennes. Par exemple, raconter des moments où on fait à bouffer, des moments où les personnages ils ont envie de pisser ou des trucs comme ça. Enfin, un moment, on s'est dit, mais on voit jamais Superman aller chier et Wonder Woman faire une pause pour changer de tampon.
C'est vrai, il y a un petit côté terre à terre qui relativise un peu tout potentiel héroïque. Enfin, dans les deux sens, c'est que les héros, ils sont pas surhumains parce qu'eux aussi doivent aller chier ou on leur règle. Et dans l'autre sens aussi, on a un corps, on a des besoins, on va, je sais pas, on doit bouffer, parfois on a mal ou quoi, et ben on peut quand même faire aussi des actions, d'avoir un impact ou de faire des choses importantes, quoi. Parmi les exemples que j'ai vraiment bien aimé dans le livre, il y a par exemple cette scène où Zoé doit se lever très tôt parce qu'elle veut rejoindre un piquet de grève et elle sent ces signes annonciatrices que je pense la plupart des personnes qui ont leur menstruation connaissent, ces signes qui t'annoncent que c'est parti pour une journée pour le moins pas très confortable et dans le pire peut-être avec des grosses douleurs. Du coup, voilà, elle va avoir ses règles et je pense vraiment on est plein à connaître ça et c'est chouette que ça apparaisse.
Ouais, il y avait cet enjeu de pas faire l'impasse sur le corps, mais aussi, j'ai l'impression, un des autres enjeux, c'est de faire exister des moments de réunion, des moments d'organisation collective, qui sont une dimension très importante dans les luttes, mais qui sont pas faciles à raconter. Et c'est un peu cette question de comment on les évite pas, quoi. Et aussi, des moments où les personnes, elles s'embrouillent, des moments où il y a des désaccords politiques, de pas montrer les collectifs comme... Ouais, comme quelque chose de simple, ni de trop beau, ni de trop horrible, mais avec des choses bien et des choses vraiment reloues, quoi.
C'est vraiment parmi les sujets pas mal développés, ce côté assez ambivalent du rapport entre individu et collectif, à la fois s'organiser collectivement, c'est quelque chose qui peut vachement nous renforcer, qui peut nous donner de l'énergie, et en même temps, à des moments, ça peut nous bouffer, parce qu'en fait, on doit tout le temps prendre en compte plein de gens, on trouve peut-être pas sa place dedans, que ça peut aussi user, et c'est raconté de plein de manières différentes.
Les réunions à 12, dans le minuscule domopart de Thor, avaient duré plusieurs années. L'occupation d'une maison abandonnée avait solidifié les choses d'un coup, et considérablement monté le niveau d'exigence politique. Une vie collective s'était inventée, de plus en plus largement consacrée à la lutte. Ses relations avec Thor et Pedro lui semblaient alors indestructibles. Et logiquement, lors des événements de 37, la bande s'était trouvée au cœur du mouvement. Thor et Izem faisaient déjà front pour convaincre les autres qu'il faudrait plus de rigueur, plus d'implication et de discrétion. Vinyl, le petit frère, avait pris cher quand une unité de cagoulés avait attaqué son lycée. Quand il était sorti de là, il était resté muet plusieurs jours. La mère avait posé la question de l'hospitalisation, mais Onik avait refusé. Elle avait argumenté contre l'enfermement. Elle avait dit qu'il fallait essayer autre chose. La mère avait cédé, même si c'était trop pour elle. Alors, Onik se sentait d'autant plus responsable de Vinyl. Et les opérations policières visant l'assemblée des unités en lutte avaient débuté. Le programme de dispersion était officialisé. Avec la mère et le petit frère à soutenir au quotidien, il était arrivé à Onik de manquer des réunions ou de ne pas participer aux actions. Le boulot au restaurant avait fini de la faire décrocher. Les informations n'arrivaient plus jusqu'à elle. Son opinion pesait moins dans les discussions. « Ce n'est pas toi qui prendras les risques », lui avait lancé Thor un jour. « Tu seras au boulot ». Ça avait sonné comme un reproche. « Mais tu sais bien que j'ai besoin d'argent pour payer le traitement de Vinyl. ce que Onyx croyait être une des bases du groupe, la prise en charge collective de leurs contraintes personnelles, n'était pas une évidence. Pourtant, Yel vivait avec les deux enfants d'Izem, elle-même déchue de sa nationalité. Thor l'avait regardée avec ce mélange de reproches et de défis. « Onyx, le problème, ce n'est pas ton boulot, c'est que tu traînes trop de doutes, et c'est pénible pour nous toutes. » Après cette réunion, Onyx en avait eu des choses à digérer.
C'est chouette cet extrait que tu viens de lire parce que ça parle vraiment assez bien de à la fois de cette question comment on prend soin des dégâts que produit aussi la répression, comme le petit frère Vinyl qui est traumatisé par des choses qu'il a vécues, et ça veut dire c'est aussi quelque chose pour lequel on a besoin d'avoir du temps, de l'énergie, en fait, de pas lâcher ces gens-là, mais aussi de comment on peut avoir des rapports différents à notre engagement politique, dans le sens, moi je sais que j'avance toujours avec beaucoup de questionnements, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'affirmer vachement fort des certitudes, et en fait de s'entendre là-dedans, ça c'est pas évident, c'est vraiment chouette de le raconter. Il y a un autre exemple, enfin, ou un autre personnage, en fait, qui est beaucoup en prise avec ses questionnements de comment trouver sa place dans le collectif, mais aussi comment exister avec ses enjeux à elle. Je pense au personnage Koma, Suzy. Enfin, elle change d'identité à un moment. Elle a ce côté que parfois elle est prise dans un mal-être, dans peut-être des états dépressifs, quelque chose comme ça. Et ça pose vachement la question de comment on peut gérer ça en collectif quand une personne va mal, comment on peut aller mal dans un collectif et quelle place on peut prendre avec ça, qu'est-ce qui nous fait du bien là-dedans et du coup après aussi à quel endroit on peut trouver des stratégies et est-ce que ces stratégies, on prend des décisions complètement individuelles là-dedans ou est-ce que ça peut aussi se négocier dans le cadre collectif. Et je trouve que c'est vraiment hyper bien raconté la complexité de ces types de rapports.
Ouais, c'est aussi raconter des relations entre des personnes et à des moments des difficultés des relationnelles. Je sais pas, par exemple, je pense à Onyx et Pedro, qui ont une immense complicité, qui s'aiment hyper fort. Et à cause de leur réalité de vie et de leurs choix, bah, ils vont se tendre. Enfin, ils vont plus voir aussi lié au contexte, mais aussi lié à un truc de s'être un peu tendu et engueulé, quoi. Et du coup, c'est aussi une manière de raconter comment les personnes, elles mettent en place des choses pour faire bouger leurs relations, quoi.
Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que dans ce roman, vous faites beaucoup de place pour plein de constellations relationnelles ou amicales différentes. En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour qui est centrale dans le récit. Elles sont évoquées à des moments, elles sont commentées. Mais c'est pas vraiment au centre du récit. C'est là, il y a beaucoup plus des formes amicales, un peu familiales aussi. Moi, j'aime vraiment bien parce qu'il y a, c'est quand même très central dans la vie de la plupart des gens, les amitiés, et c'est rarement raconté en tant que sujet à part entière. C'est souvent plus comme le stade avant de trouver l'amour ou pour répondre à un amour malheureux ou je sais pas, mais c'est rarement au centre du récit, alors que c'est, je pense, beaucoup plus central dans la réalité de la vie de plein de gens. Du coup, ça, j'aime vraiment beaucoup. Ça raconte aussi les difficultés dans ces relations ou les incertitudes et du coup aussi des enjeux à différents endroits, quoi. Ça, j'aime vraiment assez bien parce que ça montre du point de vue de différents personnages, c'est à quel endroit en fait que ces difficultés peuvent avoir des impacts sur les relations qu'ils peuvent avoir, sur le rapport au collectif. La plupart des personnes ont quelque part des difficultés où rien n'est simple partout, mais les endroits où c'est compliqué, c'est pas forcément les mêmes. Et ça, j'ai trouvé assez convaincant comment ces différents points de vue racontent aussi différentes personnalités. Et d'ailleurs, cette individualité des personnages, vous l'avez aussi marqué visuellement dans la forme, mais aussi dans le style d'écriture, dans la manière de parler des différents personnages.
En fait, dans la manière d'écrire le roman Subtil Béton, il y a toutes les autrices du collectif des agglomérés qui ont écrit tous les chapitres en se les faisant passer à tour de rôle. Du coup, les chapitres, ils ont été réécrits des dizaines de fois, et ça a donné une écriture un peu plate. Tous les personnages, ils se ressemblaient. À des moments, ils avaient tous des enjeux similaires, on pouvait les confondre. Ouais. Et à un moment, on a décidé justement de les distinguer, de leur faire des personnalités plus visées, des caractéristiques physiques aussi plus visées, et des manières d'écrire qui se ressemblaient pas. Enfin, on a donné un style à chaque narratrice, quoi. Le style qui est venu, il était aussi lié à leur caractère ou à leur psychologie. Et du coup, le fait d'avoir un imaginaire très précis sur chaque personnage, ça a permis aussi de pousser ces styles littéraires qu'on a utilisé aussi un peu comme un jeu, quoi, un jeu d'écriture. Et aussi dans ces recherches d'expérimentation, on a dû donner la parole à d'autres personnages qu'on n'avait pas spécialement prévu de leur donner la parole au début. Vinyl, parce que il allait pas bien, il y avait que le point de vue des personnes qui le soutenaient, et que ça faisait un truc méga glauque, et du coup on nous a demandé, dans les relectures, d'écrire son point de vue, et la personne qui nous a demandé ça a participé aussi à écrire son point de vue pour mettre de la complexité. Mais aussi, à un moment, on a choisi de donner la parole aux enfants, à des enfants qui vivent dans un collectif.
Stern, tu as 10 ans maintenant. Les grandes filles comme toi ne rangent pas toutes leurs merdouilles dans leur lit. C'est pas des merdouilles, c'est mes coquillages. Merdouille ou coquillage, c'est pareil. Regarde, tu as complètement dégueulassé tes draps et c'est le moment de dormir. Une fois de plus, je trouve que les adultes ont une idée de la dégueulasserie vraiment bidon. Mais je ne le dis pas, parce que maman est incapable d'accepter les critiques. Surtout le soir, quand elle est fatiguée. D'ailleurs, si c'est elle qui est fatiguée, je vois pas pourquoi c'est moi qui irais me coucher. Mais je suis pas du tout fatiguée. Ça suffit. C'est la même comédie tous les soirs. Il y a une heure où il faut aller se coucher, fatiguée ou pas. C'est complètement stupide. Ma parole, j'ai vraiment de la chance. J'ai une fille super précoce. C'est l'âge bête qui commence avec au moins 3 ans d'avance. Elle va encore me bassiner avec le truc de la crise d'adolescence. C'est complètement con. J'ai que 10 ans. C'est bien la preuve que je critique pour des vraies raisons. Je pourrais rester avec vous et Dudu s'endormirait seul. Pas question. Tu as besoin de dormir. Tu es en pleine croissance. Allez, enlève tes merdouilles de là. Il faut changer le drap. Moi, ce que je crois, c'est que maman est crevée. Et quand elle est crevée, elle n'a pas envie d'être avec nous. Elle n'a pas envie de changer le drap. Elle n'a pas envie de surveiller si Dudu s'endort bien. Elle voudrait que je fasse tout le boulot à sa place. Mais moi, je suis pas la gardienne de Dudu. Je suis pas son esclave, je suis une femme libre. Et puis, déjà qu'on va pas à l'école et qu'on fait rien comme les autres, je vois pas pourquoi je devrais me coucher à une heure précise.
Voilà, du coup, l'idée aussi de donner la parole aux enfants, c'était de créer d'autres points de vue et des décalages par rapport au point de vue des adultes qui ont leurs propres enjeux et qui, même s'ils font attention aux enfants, ils n'ont pas leur réalité et leurs enjeux, quoi. Vous êtes à l'écoute de Vortex et Rotative sur Radio Dragon et Radio Campus Grenoble.
Aujourd'hui, on vous parle du roman Subtil Béton, écrit par le collectif des Agglomérés. Un autre aspect que moi j'ai vraiment bien aimé, c'est comment ce livre parle de la perte d'une culture dans la franco. Toutes les langues, à part le franconien, sont interdites et toutes les influences étrangères, les importations ou les traductions de livres, les musiques étrangères, tout ça c'est interdit. Il y a vraiment une perte des langues étrangères en fait, et ça illustre hyper bien à quelle vitesse une langue peut se perdre. Là, c'est en une génération, en fait. Et avec les langues, quelle richesse de pensée se perd aussi. L'autre côté, c'est comment ça peut couper des gens de leur histoire. L'histoire d'immigration, par exemple, ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est vraiment intéressant comment ça réapparaît à plein de moments. Quand je lisais au début, je le captais pas tout de suite. l'ampleur de ce phénomène. Et petit à petit, on comprend, ah oui, en fait, ils comprennent vraiment aucune langue étrangère, même l'anglais, des mots très basiques et tout. Parfois, c'est aussi raconté avec un certain humour, comme dans l'extrait qui suit.
Tu te rappelles la vieille tablette que je t'avais demandé de bidouiller ? Il sort la tablette de sa poche ventrale, tapote sur l'écran pour le réactiver et fait défiler une liste de lectures musicales. Il y en a tout un tas. Pas évident de savoir ce que c'est, mais le lecteur arrive à les lancer. Effectivement, une partie des fichiers a pour nom une succession de petits carrés. Et même les titres qui ont des caractères déchiffrables sont dans d'autres langues. Ta tablette est trop vieille pour gérer la traduction instantanée. Et c'est bien ce qui rend le truc excitant. Regarde, tu crois que Dead, c'est son nom ou son prénom ? Je sais pas. On s'en fiche, on écoute. Et Pedro lance un morceau dont l'interprète s'appelle effectivement Dead Kennedys. C'est plutôt rapide et un peu bruyant, avec des paroles qui font approximativement « kill, 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 Zepour ». Tu crois que c'est en quelle langue ? Pedro ne prend même pas la peine de répondre. Regarde, il y a des albums avec des images attachées. Une photo carrée intitulée Amalia. Le dossier contient une dizaine de morceaux. Sur l'image, une ambiance vieillotte, avec un visage de femme brune, au regard soucieux. En tout cas, je n'ai rien trouvé en grec, affirme Pedro. Tu parles grec ? Non, j'ai juste un peu l'oreille. Ma mère parlait franconien, mais elle chantait en grec. Moi, je ne parle rien. Enfin, comme tout le monde, rien d'autre que le franconien.
Alors, on est dans la dernière partie de notre émission. Si vous connaissez notre format, c'est un peu le moment des petites critiques. Alors moi, en lisant Subtil Béton, parfois j'ai pensé, ah, c'est ça se lit comme un argumentaire politique à des endroits. Et souvent, les choses sont très explicitées. On a l'impression un peu, bon, bah voilà, on veut bien nous faire une sorte d'exposé. À des moments, j'ai trouvé ça un peu lourd, parce que parfois, on aimerait juste lire une histoire et que, même si elle véhicule aussi des idées, mais que c'est l'histoire qui nous fait réfléchir les choses et que pas tout est déjà argumenté ou dans des arguments très développés, quoi. Alors, ces argumentations politiques, je les ai trouvées notamment sur des questions un peu de pratique militante, sur les questions de comment s'organiser. Et à des moments, je me suis dit, ah oui, ça fait comme un peu des positionnements ou des argumentations à l'intérieur de débats, enfin de quelque chose qu'on pourrait appeler des sortes de débats internes que connaissent pas mal des gens qui s'organisent dans des collectifs ou dans des groupes politiques. Par exemple, à un moment, en fait, il y a un débat sur mettre en place un groupe de gestion des agressions à un moment où il y aura une grosse fête où il y aura en tout cas beaucoup de gens au même endroit. Et en fait, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Ça me rappelle des expériences réelles. Et du coup, en lisant ça, parfois, je me suis demandé à qui s'adresse ce livre. Qu'est-ce que vous vouliez transmettre ? Qu'est-ce que vous vouliez provoquer chez les gens, en fait, qui vont lire ce livre ? Et à qui vous vous adressez comme ça ?
Eh ben, en tout cas, c'est un truc qu'on a un peu discuté pendant le processus. Et j'imagine qu'il y a des endroits où sûrement on l'a aussi un peu fui. En tout cas, je pense que ça dépend des bouts et des passages, et on a eu plusieurs motivations différentes. Il y a eu ce moment où c'était beaucoup des récits personnels, on a décidé de les transformer en romans, et il y a eu cette question de donner à voir des bouts de nos réalités politiques, les partager. Mais du coup, c'est aussi, dans ce cadre-là, écrire des récits collectifs qu'on aimerait lire et qu'on trouve pas forcément. C'est pas toujours évident de trouver des récits où ça raconte des histoires de collectifs, et où c'est pas un militaire à l'intérieur d'une brigade qui se sent trop bien dans son groupe, quoi. C'est...
Moi, ce que je vois un peu en réfléchissant à ça, c'est parfois quand ça raconte des trucs collectifs, mais uniquement du point de vue d'une seule personne, et souvent aussi la personne qui va prendre les décisions. C'est pas du tout des collectifs comme on peut les connaître, plus horizontaux, quoi.
Ouais, une personne qui prend les décisions, ou une personne qui prend de la distance et qui va en partir, et qui critique, ou... toujours quelqu'un qui a une position spéciale, pas forcément quelqu'un qui est dans le collectif et qui vit le collectif avec sa complexité, qui va y être plus ou moins bien en fonction des moments, mais qui en fait partie, en tout cas, d'une manière, oui, un peu égalitaire, comme ça.
Dans le format de Subtil Béton, il y a aussi ce truc de capter aussi, pas juste un point de vue dans le collectif, mais plusieurs à différents moments, mais du coup aussi de capter les enjeux à différents endroits et comment, justement, ça fait collectif.
Bah oui, et du coup, pour ça, comme tous les personnages ne sont pas des narratrices, des narrateurs, et ben on a mis en place des dialogues qui mettent en place, qui montrent les désaccords politiques et qui, je pense effectivement, c'est des endroits qu'on a beaucoup retravaillé, mais qui gardent un endroit un peu maladroit de ben faut dire plein de choses sans prendre 15 pages, du coup c'est un peu brut de décoffrage et je pense que c'est pas toujours agréable à lire, mais je pense qu'il y avait aussi à un endroit l'envie d'assumer des positions politiques et d'amener des formes de contexte, de débat ou de réalité de débat qui existent dans les groupes, de pas les fuir, quoi, de dire en fait ça c'est un conflit qui existe au sein des groupes, et Bloom de le mettre, mais en assumant nos positions et notre parti pris, et du coup, enfin on a eu plusieurs retours que c'était pas les endroits les plus agréables à lire en tout cas.
Mais en plus, c'est pour ça que ça m'a inspiré cette question à qui s'adresse ce livre, parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant ou moins lourd pour des gens qui découvrent peut-être aussi plus ces débats que pour des gens qui ont déjà été confrontés à ça très souvent et connaissent l'argumentaire, en fait.
Mm-hmm. Ouais, sur cette question des personnes un petit peu éloignées, il y a un endroit de aussi avoir envie de donner envie de lutter, avoir envie de partager des bouts de ces histoires où les collectifs, la lutte, la puissance que ça permet de ressentir, les perspectives, l'espoir que ça peut donner, c'est quelque chose de désirable, que la lutte c'est quelque chose, ou les luttes c'est des choses désirables. Et c'est désirable pas uniquement de manière simpliste, de pas fuir la complexité et toutes les dimensions chiantes, pénibles qui peuvent exister, mais aussi quand même donner envie, quoi.
Mais en plus, ça, je pense, ça marche assez bien. D'autant plus, on a pas beaucoup développé là sur l'histoire qui se déroule. Mais je veux dire, il y a vraiment plusieurs trucs assez trippants dans l'imaginaire, dans les choses que les gens, dans les personnages vont mettre en place, des actions qu'ils vont mener et tout. Et c'est quand même vraiment, enfin, ça donne envie.
En tout cas, s'adresser aussi à des personnes qui sont pas directement proches de nous, ça fait partie de nos préoccupations, parce qu'à un moment on s'est dit « Ouais, ça se trouve, c'est un truc qui peut se comprendre que par nos potes, des gens proches, des gens qui vivent en collectif, qui sont dans des trucs militants ou des luttes et tout ça. » Et du coup, dans le processus, il y a un moment où on l'a fait relire à des personnes qui sont plus éloignées de nous, et pour savoir si ça marchait. Et c'était super d'avoir les retours de ces personnes-là, c'était hyper précieux, quoi.
Ouais, en plus, moi comme ça, j'aurais l'imaginaire que différentes personnes peuvent prendre différentes choses dans ce livre. Et ouais, c'est super. En tout cas, je le vois pas comme s'adresser à un lectorat très restreint, quoi. Mmh. On s'approche de la fin de notre émission. Il y a encore quelque chose que moi, je voulais quand même souligner, parce qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. C'était un parti pris pour cette émission de pas développer sur certains aspects dont vous avez déjà pas mal parlé ou écrit ailleurs, comme notamment le processus d'écriture de cette œuvre collective, qui est quand même assez intéressant pour donc celles et ceux que ça intéresse. Ce processus est raconté de manière assez détaillée dans un texte qu'on peut trouver à la fin du livre, tout comme aussi une carte des lieux qui est assez impressionnante d'ailleurs. On peut trouver tout ça aussi sur le site subtilbeton.org.
Oui, en fait, c'est un site qui va donner des infos sur le livre, où il y a la postface, effectivement. Et il y a aussi des dates de présentation, de rencontres ou d'ateliers d'écriture qu'on anime, du coup, pour nous rencontrer ou écrire avec nous, pour partager la pratique de l'écriture et se l'approprier. Et puis, sur le site, on trouve aussi des passages inédits, une bibliographie, enfin, plein d'autres trucs, quoi.
C'était le 18e épisode de Vortex Eurotative et on vient de vous parler du roman Subtil Béton, écrit par le collectif des Agglomérés.
Ce roman est publié aux éditions de La Talente et le format poche fait 512 pages.
on a utilisé des extraits de musique de la DJ et productrice allemande Helena Hauff.
Au revoir.
Au revoir et à la prochaine.
Vortex et rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.